Ce matin, on poursuit notre série sur la miséricorde et l'Évangile. Et on a commencé cette série-là en parlant d'un monde extraordinaire que Dieu a créé, dans lequel Dieu a apporté son shalom, sa paix. Et vous allez voir le lien avec la pièce de ce matin. C'est Dieu qui organise ces trucs-là puis qui place tout ça. On a commencé en parlant du shalom, la paix de Dieu, que Dieu avait donné à ce monde où l'être humain, l'humanité, était en communion avec Dieu et était appelé à vivre cette même communion, cette paix-là, entre nous, entre les êtres humains. Et on a commencé la série en disant que ce shalom, cette paix, a été fracassé par le péché, brisé littéralement par la rébellion humaine. La paix entre Dieu et les hommes et la paix entre les êtres humains a été brisée par notre rébellion. Et depuis ce temps, Dieu a mis en œuvre, il avait déjà mis en œuvre bien avant cela, mais depuis ce temps, Dieu a mis en œuvre un projet de sauvetage, un plan de sauvetage pour ramener son shalom, ramener sa paix parmi les hommes. C'est de ça dont la pièce parlait, de cette réconciliation que ce centurion, j'imagine que c'est celui qui était là et qui a dit « Certainement, cet homme était innocent au moment de la mort de Jésus ». Et c'est ce plan de sauvetage-là que Dieu a mis en œuvre. Et à travers la série, ce qu'on voit ensemble, c'est que par notre miséricorde, par la miséricorde de Dieu envers nous, mais par la miséricorde que nous sommes appelés à pratiquer les uns envers les autres et envers le monde à l'extérieur, on est là pour incarner ce shalom de Dieu, pour introduire les gens, pour faire connaître aux gens l'Évangile de Jésus-Christ et le début de ce shalom-là en attendant le retour de Jésus-Christ. Et ce matin, on va parler d'un des aspects, je dirais, les plus criants, les plus forts, celui de la réconciliation. Ce ministère de réconciliation que Dieu nous a donné une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu. Tellement précieux. Probablement un des moyens les plus puissants, les plus brillants de faire connaître notre Dieu, de faire connaître son shalom, Jésus-Christ, en l'incarnant nous-mêmes, en apportant la réconciliation aux gens autour de nous, dans des conflits, dans des situations difficiles. On va prier ensemble. Père éternel, on va se pencher ce matin sur un passage qui est très direct, qui est très puissant. Et Père, on veut commencer en t'adorant ce matin. Alors qu'on fête la fête des pères, on veut commencer par toi, Papa. Toi qui es notre Père. Toi qui es le seul Père parfait. Tu es celui qui nous aime malgré nos imperfections. Tu es celui qui prend les devants, qui vient vers nous. Tu es celui qui nous accueille, qui nous protège, qui nous console. Tu es le Père de toute consolation. Et on veut t'adorer ce matin, Seigneur. Et ce matin, on veut se placer sous le ministère de ta parole. On veut entendre ce que tu as à nous dire. Et on aimerait avoir une pensée, un mot de prière, Père, pour tous les papas de l'Église. On veut te remercier premièrement pour ces pères, Seigneur, qui apprennent à te connaître, qui apprennent à t'aimer, qui veulent être des modèles pour leurs enfants. On te demande, Seigneur, de les bénir en toi, de les fortifier dans ce grand mandat que tu leur as confié, Seigneur. On veut te bénir pour nos pères, Seigneur, imparfaits, Seigneur, mais qui de toutes sortes de manières reflètent ta bonté à toi, reflètent ton amour à toi, Seigneur. On te prie pour les pères de l'Église, on te demande de les fortifier en toi, de les faire grandir en toi, Seigneur, qu'ils puissent être une véritable bénédiction. Et je veux te bénir personnellement, Père, aussi pour tous les pères spirituels que j'ai eus, qui ont été vraiment précieux dans cette famille de Dieu, j'ai découvert aussi autre chose, Seigneur, et j'ai été béni de cela. On te demande de venir nous rencontrer ce matin, de parler à nos cœurs par ton Esprit Saint. Viens, Seigneur, nous aider à être disponibles, à l'écoute, pour recevoir ce que tu veux nous dire, Père. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, on va écouter la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 5, un texte vraiment percutant de la part de Jésus.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Matthieu 5, les versets 21 à 26, dans la nouvelle édition de Genève. Matthieu 5, 21 à 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran.
Merci, Danny. Comme je le mentionnais tout à l'heure, je le mentionnais aussi dans le courriel cette semaine, c'est un addon, disons, de Dieu. Ce n'était pas le message qu'on devait avoir ce matin. Mais comme on a décidé d'embarquer dans le mouvement de prière, on a invité Richard Hull à venir apporter un message, puis ça a fait un petit décalage. Alors, Dieu a certainement un message pour nous particulier, puis je pense à la fête des Pères, des fois il y a des œuvres de réconciliation que Dieu veut faire aussi dans ces circonstances-là. Le mot « évangile » lui-même a un sens très simple, hein? Ça veut dire « la bonne nouvelle ». Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a désiré et a mis en œuvre de se réconcilier avec nous, de réconcilier les hommes avec lui. C'est ça la bonne nouvelle, en fin de compte. C'est que Dieu nous a aimés au-delà de notre folie, de notre rébellion, de nos péchés, et puis est venu pour apporter la réconciliation qui est impossible pour nous. On ne pouvait pas nous couvrir la distance vers lui. Mais lui a pris sur lui-même de couvrir cette distance-là, et il l'a fait à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et je crois que le ministère de réconciliation, qui est celui d'annoncer Jésus-Christ, mais de l'incarner aussi, est certainement un des outils, un des moyens les plus puissants que Dieu nous a donnés pour annoncer l'Évangile, pour annoncer aux hommes la réconciliation avec Dieu. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, c'est communément, on appelle ça le sermon sur la montagne. C'est comme, disons, dans l'idée des théologiens, ceux qui étudient les évangiles, ils vont dire c'est le moment où Jésus vient comme le second Moïse, qui était allé sur le mont Sinaï, qui avait reçu la loi de Dieu, et il vient comme le second Moïse nous expliquer la loi de Dieu. Mais avec une profondeur, il va vraiment au cœur de la loi. Il n'est pas « by the book », il va vraiment dans l'esprit. Quel était le cœur de Dieu avec cette loi-là? Et on lit dans Matthieu 5, au verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et ce matin, on souligne la fête des Pères. On veut honorer nos Pères, mais à quelque part, on veut apprendre de notre Père qui est dans les cieux. Puis on veut lui ressembler. On veut être comme lui. Et Jésus nous dit que ceux qui procurent la paix vont être appelés fils de Dieu. Et cette paix-là, on la porte aux gens en apportant l'Évangile, mais on le fait aussi en apportant la réconciliation, en incarnant cet Évangile dans nos relations les uns avec les autres. Et Jésus est vraiment, vraiment fracassant à travers ce passage-là. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La réconciliation est peut-être le mot qui résume le mieux l'Évangile et peut-être aussi celui qui l'illustre le mieux dans l'Église. Alors, d'une part, réconciliation, c'est peut-être le mot qui résume le mieux l'Évangile, mais lorsqu'on le met en œuvre dans l'Église, dans les relations dans l'Église, là où on est censé pouvoir expérimenter sur terre le shalom de Dieu, lorsque la réconciliation est mise en œuvre dans l'Église, c'est probablement là aussi qu'on illustre le mieux l'Évangile de Jésus-Christ. Tout le monde a besoin de la réconciliation. Matthieu 5, versets 21-22, Jésus dit ceci, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. C'est là que je vous dis, Jésus vient comme le second Moïse qui va au cœur de la loi. Il nous rappelle le sixième commandement, puis là, il plonge au cœur de ce commandement-là, puis il dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » En quelque sorte, est coupable aussi. Que celui qui dira à son frère « Raca », creux, imbécile, stupide, insensé, mérite d'être puni par le Sanhédrin, que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Jésus est en train de nous dire que la colère, pas n'importe quelle colère, d'accord, je veux juste faire une nuance, tu te promènes sur la rue, puis tu vois quelqu'un, tu vois, je ne sais pas, un adulte qui est en train littéralement d'agresser un enfant, puis il y a une colère qui monte en toi, puis t'intervient. Clairement, ce n'est pas de ça dont Jésus est en train de parler ici. Mais Jésus est en train de nous dire, vous savez, cette colère, cette amertume, ce mépris, et je pense que Jésus donne une bonne explication, une bonne illustration lorsqu'il commence à parler des mots qui viennent à l'esprit. Lorsqu'il y a un mépris dans notre cœur, puis on commence à, justement à considérer les gens avec mépris, pour nous, ce sont des imbéciles. Une personne est pour nous un imbécile, un insensé. En québécois, on dit un con. Jésus dit, à ce moment-là, ce qui se passe dans ton cœur, c'est totalement, justement, véritablement comparable à ce qui se passe dans le cœur du meurtrier. C'est énorme ce que Jésus dit. Si je le mets dans le contexte de la série, puis je reviens avec cette idée du shalom, c'est sûr que lorsque je prends la vie d'une personne physiquement, les conséquences concrètes, visibles, sont vraiment autrement plus grandes que lorsque je vis de la haine, de la colère, du mépris dans mon cœur envers quelqu'un. C'est certain. Mais je vais me permettre de le dire comme ça. Lorsque je vis du mépris dans mon cœur envers quelqu'un puis que je cultive cette colère, je deviens, et je pense que vous allez me le concéder, au moins un meurtrier du shalom de Dieu. Je m'attaque à cette paix qui est censée être là entre les hommes pour refléter la paix que Dieu a apportée en se réconciliant avec les hommes. Et je deviens au moins un meurtrier du shalom de Dieu. La paix qui est censée régner entre nous par la grâce de Dieu. Jésus me dit que lorsque je nourris cette colère-là du mépris plutôt que de la compassion, de la miséricorde, je suis coupable. Puis honnêtement, c'est vraiment terrible comme barre que Jésus nous met là. Cette semaine, j'ai confessé au Seigneur que j'étais un meurtrier dans mon cœur. Puis pas juste dans mon cœur, parce qu'il y a des paroles qui sont sorties de ma bouche, où j'ai parlé avec mépris. J'ai dû demander pardon à la personne qui m'avait entendu dire ça. Et cette semaine, pendant que je préparais ça, j'ai confirmé avec Jésus que j'étais un meurtrier. Dans mon cœur, du shalom de Dieu. La barre est terriblement haute. Peut-être que vous connaissez le passage dans Romains 3, 23. Paul dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Je vais le mettre en québécois puis dans le contexte de notre exposé de ce matin. « Car tous se sont chicanés et sont privés du shalom de Dieu. » Québécois, on dit chicaner, hein? « Car tous se sont chicanés et sont privés du shalom de Dieu. » On est tous coupables. Tout le monde est coupable. On est tous des meurtriers dans ce sens-là où Jésus l'entend ici. Tout le monde a enfreint l'esprit au moins du sixième commandement. Il n'y a personne ici qui va venir me faire croire qu'il n'a jamais vécu ça dans son cœur. Il n'y a personne. Puis c'est comme si Jésus est en train de nous envoyer tous en enfer. Il dit, ça mérite la géhenne, ça mérite la condamnation éternelle. Fait qu'à partir du moment où Jésus prononce ça, autant dire qu'il nous envoie tous en enfer. Autant dire qu'il nous condamne tous, tout le monde est condamné. Voyez-vous, Jésus prend très au sérieux nos relations brisées. C'est sérieux pour lui. Puis j'ai aimé ce commentaire de Stephen Hum, un pasteur, qui dit, en parlant de l'enseignement de Jésus, il dit, « Si son enseignement ne concerne pas premièrement le comportement qu'il attend de nous, autant que notre besoin d'être sauvé. » Parce que dans la suite du passage, on voit qu'est-ce que Jésus attend de nous, mais Stephen Hum dit, Jésus n'est pas autant en train de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit agir, que de nous prouver qu'en fin de compte, on est tous coupables. Tout le monde, on est tous des meurtriers. On est tous coupables devant Dieu, puis on a tous besoin d'être sauvés. Puis vous allez voir, on va regarder ensemble rapidement, mais on va regarder qu'est-ce que Jésus attend de nous. Puis donc, non seulement on va voir qu'on est coupable d'avoir méprisé quelqu'un, détesté quelqu'un, s'être mis en colère dans son cœur contre quelqu'un, donc on est coupable d'avoir enfreint, mais quand on va lire ensemble ce que Jésus attend de nous, vous allez voir plusieurs d'entre vous dans votre cœur, vous allez dire, c'est impossible. Je suis pas capable de faire ça par moi-même. J'arriverai pas à produire ça. C'est hors de ma portée. Puis si c'est pas hors de ma portée, c'est hors de la portée de l'autre personne avec qui je dois faire ça. Et donc, ça va confirmer encore qu'on a besoin d'être sauvé. Parce que non seulement on pêche contre le sixième commandement, au moins dans son esprit, mais on n'est même pas capable de restaurer, de rétablir la paix lorsqu'on a péché contre ce commandement. Jésus va nous dire de passer à l'action, mais il nous faut premièrement réaliser qu'on a besoin d'être sauvé. Voyez-vous, avant que je puisse passer à l'action, avant que je puisse appliquer la suite du passage, il y a certaines choses qui doivent se passer dans mon cœur, dans ma tête. Il faut premièrement que j'aie l'humilité de savoir que j'ai moi-même péché contre la loi de Dieu. Avant que tu puisses aller te réconcilier vers ton frère, Jésus est en train de te dire, est-ce que vraiment tu penses que toi, tu n'as jamais péché? Et donc, je dois premièrement laisser l'humilité s'installer dans mon cœur et réaliser que moi-même, j'ai péché contre le premier commandement. Je dois prendre conscience de ça, que j'ai besoin d'être sauvé parce que je suis moi-même coupable. Fait que je vous pose quelques questions, d'accord? Si Dieu t'appelle... Si Dieu a fait de toi son enfant, il t'appelle à avoir un ministère de réconciliation, à être un faiseur de paix. Si Dieu t'appelle à faire la paix, il y a des questions auxquelles tu dois répondre. Es-tu profondément convaincu dans ton fort intérieur que tu es coupable de colère et de mépris? Est-ce qu'actuellement, en utilisant le langage de Jésus, est-ce qu'actuellement tu pratiques le meurtre dans ton cœur? Là, est-ce que tu es un meurtrier? Est-ce que tu as appris à dealer avec les offenses qu'on te fait? Est-ce que tu as appris à aller dans l'Évangile pour dealer avec ça, pour faire face à ça? Est-ce que tu l'as enseigné à tes enfants? Le christianisme, mais la religion en général, mais le christianisme particulièrement, est extrêmement critiqué, n'est-ce pas, depuis quelques décennies au Québec, mais actuellement en Occident. Puis, si je vous demandais quelle est la plus grande critique qui est faite contre le christianisme ou contre la religion, mais contre le christianisme? Je pense que la plus grande critique, ce serait « vous êtes des hypocrites », l'hypocrisie. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne pense pas que les gens viennent nous voir et nous disent « la plus grande critique, là, c'est que vous êtes juste une gang de naïfs! » Vous croyez en un Dieu invisible, vous êtes des naïfs, vous croyez que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas la plus grande critique. Peut-être qu'ils trouvent qu'on est naïf, mais ce n'est pas ça vraiment qui va les scandaliser. C'est plutôt lorsqu'ils côtoient des chrétiens ou ils côtoient des religieux ou ils côtoient des églises, puis ils partent de là, puis il y a comme un parfum d'hypocrisie, quelque chose de faux, de pas vrai. Dans nos maisons aussi, avec nos enfants. Le jour où tes enfants commencent à dire dans leur cœur que toi, comme parent chrétien, tu es un hypocrite parce que tu ne mets pas en application la parole de Dieu, tu as toute une bataille à remonter. Tu as toute une guerre à livrer dans ton cœur puis pour faire la conquête de leur cœur. Et c'est ça que Dieu est en train d'adresser ici. Dans la suite du passage, c'est ça que Dieu est en train d'adresser. Versets 23-24. « Si donc tu te présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Dieu a vraiment à cœur nos réconciliations humaines. C'est vraiment important pour Dieu nos réconciliations humaines. C'est plus important que tout ce que je pourrais faire pour adorer Dieu comme offrande, parce qu'il a vraiment à cœur. Puis l'image qui me venait à l'esprit lorsque j'étais en train de méditer sur le passage, puis je réalisais que j'allais prêcher là-dessus à la fête des pères, puis je me disais, pour tous ceux ici qui sont papas, puis qui avaient vu vos enfants se chicaner, vous savez comment c'est dur. Puis c'est encore plus... plus dur à supporter puis à vivre lorsque tes enfants adultes vont chicaner. C'est terriblement déchirant. Et le Père est en train de nous dire ici, à travers son Fils Jésus-Christ, que lorsque je suis en train d'adorer Dieu, lorsque je suis en train d'adorer mon Père, si mon Père sait, voit en réalité, en réalité, je suis en conflit avec mon frère, ma sœur. Ça attriste son cœur. Mon offrande perd tout son sens. Ça ne veut plus rien dire de vrai. Ça sonne faux même à ses oreilles. Et ça devrait sonner faux dans mon cœur, dans mes pensées à moi. Tous ceux qui aiment Dieu sont responsables de la réconciliation. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Jésus est super exigeant, hein? Parce qu'il n'est pas en train de dire si... C'est très ouvert ce qui est déclaré là, OK? Tu te souviens qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Mais des fois, on a déjà traité ça dans notre tête, puis on dit, ouais, il y a quelque chose contre moi, mais c'est lui le nono. Hop, j'ai-tu dit nono? Ah, mais c'est lui! C'est pas moi, il y a quelque chose contre moi, mais c'est lui! Tu sais, j'en ai déjà parlé, puis c'est lui. C'est elle. Non, si tu te rappelles, ça te revient à l'esprit. Il y a quelque chose contre toi. Changement de priorité. Tu as une priorité. Arrête ça. Arrête ça. Puis pour nous, parce que lorsque Jésus enseigne à ce moment-là, l'autel est encore présent, le temple est encore présent, mais pour nous comme chrétiens, c'est nos corps, c'est notre service, c'est nos louanges, c'est ça nos offrandes qu'on fait à Dieu. C'est lorsqu'on vient célébrer, lorsqu'on vient chanter, c'est lorsqu'on est en train de servir. Puis à quelque part, Jésus est en train de me dire, tout ça, là, mets une pause là-dessus. Arrête-toi si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Je sais que dans votre esprit, il y a déjà comme plein d'impossibilités. Vous dites, non, mais attends un petit peu, c'est parce que t'as beau essayer, ça ne se règle pas toujours. Je sais, j'y viens. J'ai le privilège, l'énorme privilège d'avoir un ministère public, mais il y a des conséquences à ça. Moi, je n'ai jamais rencontré un seul pasteur avec qui il n'y a aucune personne qui a quelque chose à régler. Je n'en ai pas rencontré. C'est comme si, ça veut-tu dire dans le fond que j'aurais voulu être pasteur, mais je ne le serai jamais parce qu'à partir du moment où je vais être pasteur, il y a quelqu'un qui va avoir quelque chose contre moi et il faut que j'arrête de faire ça. Fait que je ne serai jamais pasteur dans le fond. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par écouter Jésus. On commence par écouter Jésus. Il dit, laisse-là ton offrande. Ça doit devenir ta priorité numéro un. Puis c'est ta responsabilité. Tous ceux qui aiment Dieu sont responsables de la réconciliation. Je peux pas, j'ai pas la latitude de séparer mon adoration verticale avec Dieu de ma piété horizontale dans ma relation avec les frères et sœurs. Je n'ai pas cette latitude-là. Parce que l'offrande qui plaît à Dieu, c'est premièrement un cœur de réconciliateur, un cœur qui veut faire la paix. Puis c'est intéressant dans le passage, il dit, c'est pas important de savoir qui a la faute. Tu as la responsabilité d'aller faire la paix. Puis je veux juste adresser rapidement quelque chose que j'entends souvent. souvent, je trouve qu'on se déresponsabilise énormément. Puis quand je suis arrivé dans le passage, j'ai dit, pourtant, c'est tellement fort dans le texte. On va dire, ma responsabilité à moi, ça va être de pardonner l'autre ou d'aller demander pardon si j'ai manqué. Mais je ne suis pas responsable de la réconciliation. C'est pas ça que je vois dans le texte ici. Le mot pour réconciliation, lorsqu'il dit « va et réconcilie-toi avec ton frère », le mot qui est là veut dire « va faire la paix ». Va rétablir, c'est pas le mot hébreu shalom, mais c'est va rétablir la paix, va rétablir le shalom entre vous deux. C'est littéralement la réconciliation. Je suis responsable d'aller rétablir la réconciliation entre nous deux. Puis c'est intéressant parce que le mot grec qui est là laisse vraiment la possibilité que la faute soit des deux côtés. Ailleurs, il va être question de réconciliation entre Dieu et les hommes, puis Dieu prend l'initiative de la réconciliation entre Dieu et les hommes, puis c'est le même mot grec qui est là, mais il y a un petit préfixe avant qui change tout, qui dit que la faute est clairement du côté des hommes, puis que Dieu prend l'initiative de la réconciliation. Mais ce que j'ai ici, la faute peut être des deux bords. C'est comme si ça devient, excusez le mot anglais, irrelevant. C'est pas pertinent à ce moment-ci de déterminer qui a une faute. Ce qui est important de déterminer, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre moi? C'est énorme. À partir de ce moment-là, j'ai une responsabilité. J'ai la responsabilité de poursuivre la paix. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est constamment présent à travers tout le Nouveau Testament. Qu'est-ce que je fais si la personne ne veut rien savoir? J'essaie, j'ai beau essayer, je vais voir la personne, on essaie de s'expliquer, puis on n'arrive pas à... Je ne sais pas, j'y arrive pas. Mais ça arrive. L'apôtre Paul lui-même le dit dans Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Mais si je reste dans mon passage de Matthieu, je vais dire que le minimum dans le passage de Matthieu, c'est deux choses. Je sais que quelqu'un a quelque chose contre moi, je mets tous mes efforts à rétablir la paix. Première chose, c'est minimum. Comme chrétien, première chose, je veux adorer Dieu, je veux servir Dieu, je sais que quelqu'un a quelque chose contre moi, minimum, je dois mettre tous mes efforts à rétablir la paix. Maintenant, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Peut-être que la personne ne veut même pas me parler. Deuxième chose, je dois m'assurer que dans mon cœur, il n'y a plus aucune colère et il n'y a plus aucun mépris. Parce que si je garde la colère et du mépris, je pêche contre le sixième commandement. Donc au minimum, dans mon cœur à moi, je dois avoir dispensé le pardon, puis ça reste là. Ça reste un sujet de prière. J'ai une responsabilité de restaurer la paix. Parce que notre mission à nous, c'est d'apporter le message de paix entre Dieu et les hommes. Et une des manières les plus puissantes de le faire, c'est en l'incarnant dans nos relations humaines. Et donc, il y a des situations où je fais de mon mieux, j'essaie de restaurer, de rétablir la paix. Je veux rétablir la paix entre nous. Peut-être qu'on ne sera pas les meilleurs amis du monde, tu sais. Ton réflexe le vendredi soir, quand tu dis « je vais aller jouer au pool », ça ne sera peut-être pas d'aller jouer au pool tous les vendredis soirs avec moi. Mais en même temps, il n'y a plus rien entre nous de grief. Et si j'ai l'opportunité de le faire, ça va me faire plaisir de le faire. Si j'ai l'opportunité de servir avec toi, je vais le faire avec joie. Puis au contraire, ça va être l'opportunité justement de concrétiser cette paix-là entre nous, de la bâtir, de la construire ensemble, de rétablir quelque chose qui, progressivement, avec le temps, va vraiment dégager un parfum de paix entre nous. Puis des fois, j'y arrive pas parce que, toutes sortes de raisons, je vais m'assurer que dans mon cœur, je ne suis plus en train de pécher, je ne suis plus en train de contribuer à ça. Et si tu dis, écoute, il y en a qui sont sérieux, là, c'est vraiment cute ton affaire, mais d'après moi, tu n'as pas souffert beaucoup dans ta vie. On ne commencera pas cette game-là ce matin, OK? L'échelle de la souffrance, là, on ne commencera pas ça. On a chacun notre histoire. Mais je sais, par exemple, je sais pour l'avoir vécu, qu'il y a des moments où tu dis, « Seigneur, je veux tellement faire ta volonté, mais je ne suis tellement pas capable d'y arriver. » Je l'ai déjà dit à l'Église à quelques reprises à travers les années, mais dans mon expérience personnelle, je vois parfois le péché et notre nature pécheresse, d'accord, comme être pris dans un labyrinthe. Puis je crois que les psaumes sont là pour nous aider à savoir comment prier parfois lorsqu'on est pris dans le labyrinthe du péché. Je suis là puis je dis, « Seigneur, je veux tellement faire ta volonté, mais je ne sais pas comment changer ça, cette affaire-là, à part si tu me fais une autre greffe de cœur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. » Moi, Dieu m'a accordé une grâce, je n'ai pas une prédisposition vraiment à l'amertume. Maintenant, je suis un être humain, fait que ça m'est arrivé, d'accord? Mais c'est comme, j'ai plein d'autres combats, si vous saviez, mais ça, ce n'en est pas un grand. Puis pourtant, je dois vous dire, au jour de ma conversion, il y a quelqu'un qui m'avait fait du mal lorsque j'étais plus jeune. Ça m'a pris au moins 3 ans à expérimenter dans mon cœur que le pardon était vraiment là. J'ai repardonné à cette personne-là des dizaines de fois. Mais chaque fois que je parlais d'elle, à un moment donné, c'est comme, je m'entendais parler puis je disais, « Man, c'est pas beau ce qui sort là. Il me semblait que tu y avais pardonné. » Là, j'étais attristé puis je retournais dans la prière puis je disais, « Seigneur, c'est quoi ça? J'ai pardonné. C'est comme, pourquoi? » Puis je faisais juste aller confesser au Seigneur. « Seigneur, t'es mort pour moi. Je peux pas te tenir grief. Fait que je pardonne. Puis fais quelque chose. Change-moi. Ça se peut pas. » Puis là, tu te dis, « OK, c'est le début de la vie chrétienne maintenant. » C'est un chrétien mature, ça ne se reproduira plus, cette affaire-là. Là. Puis je vous dis, c'est pas comme, pour moi, l'amertume, peut-être que je ne toucherai pas du bois, là. Je ne crois pas à ça. Mais c'est pas un grand combat dans ma vie. Puis pourtant, ça m'est arrivé dans le ministère. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose, je pense que ça a duré 2 ans. Pas 2 ans avant que je décide de lui pardonner. Non, non, ça a pris 2 jours. Mais 2 ans avant que je voie dans mon cœur qu'il n'y a plus aucun mépris, il peut avoir de la compassion, il peut même des fois avoir de la pitié, mais définitivement de la miséricorde qui est là. J'étais pris dans un labyrinthe. Et peut-être que c'est là que tu es. C'est pour ça que je vais être sensible à cette réalité-là, d'accord? La nature pécheresse, c'est quelque chose de complexe. Puis des fois, on lutte avec ces péchés-là, mais il y a tellement de psaumes. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Viens appliquer ta parole dans mon cœur. Viens à mon secours. Viens me purifier. Viens me montrer tes voies, Seigneur. Puis les frères et sœurs sont là pour qu'on prie ensemble. Fait que si tu es pris avec ça, tout ce que je te dis ce matin, c'est prends ça vraiment au sérieux. Néglige pas ça. Puis je te dirai pas néglige pas ça comme le monde le dit, tu sais, parce que ça va te libérer, tu vas être mieux dans ta peau. Tu sais, c'est comme, pardonne aux gens pour ton propre bien. Ben oui, sûrement, c'est évident, OK. C'est pas ça le motif biblique. C'est pas pour ton bien que tu pardonnes. C'est pour la gloire de Dieu. Amen? C'est pour la gloire de Dieu parce que c'est le ministère que le Seigneur nous a donné. Et simplement de dire que parfois c'est très difficile de pardonner, souligne à quel point, quand Jésus est venu et il a dit ça, il nous a placés dans une situation d'échec automatique. On est tous coupables contre le 6e commandement, on a tous de la difficulté à pardonner, on est en situation d'échec. Et même le désir de bien faire puis de rétablir la paix, on est encore souvent en situation d'échec. Tout ça souligne combien on a besoin de l'Évangile. L'espoir pour nos conflits n'est pas en nous-mêmes, c'est même pas là-dedans. OK, on a clarifié ce matin qu'est-ce qu'on a à faire. Non, mais je te le dis tout de suite, tu ne seras pas capable de le faire. Par toi-même, tu ne seras pas capable de le faire. Ce n'est pas qu'on t'a expliqué, c'est pour ça que je ne suis pas bien, il faut que j'aille pardonner. Je te dis, c'est quand même possible cette affaire-là. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Si tu y arrives, c'est juste que tu n'as pas été assez offensé encore. Ça va venir. Il y a un moment où tu vas dire, je ne suis pas capable, Seigneur. Notre espoir est en Jésus-Christ. Colossiens 1, 19 et 20, et on va terminer avec ça. L'espoir pour nos conflits est en Jésus-Christ, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, parlant du Fils. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu n'avait pas besoin de se réconcilier avec nous. Dieu avait pas, Dieu n'était pas là dans son Saint-Ciel à se dire, « il y a quelqu'un qui a quelque chose contre moi. Il faut que j'aille me réconcilier avec lui. » Non, Dieu jugeait justement la méchanceté des hommes, mais Dieu a décidé de couvrir la distance entre nous. Il a pris l'initiative. Jerry Bridges résume ceci comme cela. Dieu n'a pas attendu un changement de cœur de notre part. Il a pris l'initiative. Et plus encore, il a fait tout ce qui était nécessaire pour que la réconciliation voie le jour. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, oublie ça. Ce que je te dis là, tu vas dire, bien, c'est pour ça que je ne veux pas être chrétien, c'est parce que c'est une gang de fous qui se mettent des lois qui n'ont pas d'allure. Il y a des gens qui te font du mal, puis c'est correct de les haïr parce que c'est des morons qui te font du mal. Puis si c'est là que tu es dans ton cœur, sans vouloir t'offenser, c'est parce que tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu n'as pas saisi encore à quel point Dieu a aimé un moron, plein de morons. C'est pour ça que son fils est venu mourir sur la croix. Et peut-être que tu as premièrement besoin de te réconcilier avec Dieu aujourd'hui, puis d'accepter l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour que tes péchés à toi premièrement soient pardonnés. Puis ta haine, ta colère, ton mépris sont la preuve dans ton cœur que tu as besoin de cette grâce-là de la part de Dieu. Parce que plusieurs sont peut-être coupables contre toi. Mais toi, tu es définitivement coupable envers Dieu. Et tu as besoin de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour connaître ce pardon-là. Mais si tu l'as connu, si tu as connu cette grâce-là, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle comme Jésus à ne pas attendre un changement de cœur de la part de l'autre. Notre responsabilité va bien au-delà des changements de cœur de la part de l'autre. Si je me souviens que quelqu'un a quelque chose contre moi, c'est probablement que je me souviens que quelqu'un n'a pas des meilleures dispositions qu'hier envers moi. Il y a quelque chose contre moi. Il n'y a pas de changement de cœur. Je n'attendrai pas qu'il prenne les devants. Je vais couvrir la distance, je vais prendre l'initiative. Mais non seulement cela, ça coûte très cher. Ça coûte très cher d'aller vers l'autre en sachant qu'il n'est peut-être pas raisonnable, il n'est peut-être pas prêt à voir sa part de tort, il n'est peut-être pas prêt à prendre conscience, il n'est peut-être pas rendu là. C'est ce que Christ a fait pour nous, les amis. Christ a pourvu à tout ce qui était nécessaire pour le pardon. Je n'ai aucun mérite dans le pardon que Dieu m'a accordé. Je n'ai rien apporté, j'ai juste dit merci pour ton pardon. On est en paix, oui, on est en paix. C'est tout ce que j'ai fait. C'est ce que Dieu nous demande, de dispenser. Et si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, puis tu as pris l'initiative d'aller vers cette personne, puis tu lui as dit, « Faisons la paix, mon ami. Faisons la paix ensemble, toi et moi. » Si la personne n'est pas raisonnable, tu as dispensé cette grâce-là, puis tu dis, « Pour ma part, je suis en paix avec toi. » On ne s'entend pas sur l'analyse de tout ça, mais sache que je t'aime par la grâce de Dieu, puis ce que tu as pu faire comme faute, que ce soit vrai ou non, que tout soit clair ou non, c'est couvert par la grâce. Moi, je t'étends une main de paix. Et peut-être que tu as un rôle comme ça à jouer au travail. Peut-être que tu as un conflit avec des collègues de travail. Peut-être que tu as assisté à un conflit entre des collègues de travail puis que tu es appelé à apporter la paix dans cette relation-là. Peut-être que tu es plus près d'un des deux collègues de travail. Tu peux aller vers lui entre tes enfants, dans ta famille. On est appelé à apporter le shalom de Dieu. Ce shalom-là, il se trouve en Jésus-Christ. Mais il prend son sens quand la paix de Dieu que nous, on a trouvée en Jésus-Christ est vraiment incarnée en allant vers ceux qui nous ont fait du mal puis en les aimant. Amen. Soyons des agents de miséricorde dans nos familles. Aujourd'hui, avec la fête des pères, je sais que pour certains d'entre vous, c'est comme un coup de poing peut-être, parce qu'il y a des conflits qui durent peut-être depuis des décennies. Soyons des agents de paix, soyons des agents de miséricorde dans la communauté ici. On annonce l'Évangile, puis on rentre dans des familles, puis il y a plein de conflits. Puis il y a des conflits dans l'Église, les amis, sérieux, il y en a dans l'Église. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Écoutons-le. Parce qu'ici, premièrement, on doit pouvoir voir et expérimenter le shalom de Dieu. On va prier ensemble. On va prier. Seigneur Jésus, ta parole est sérieuse. Ta parole est exigeante. Parce que ta parole nous parle de toi, premièrement. Nous parle de ta sainteté, de ta perfection, de ta pureté, Seigneur. Nous parle de l'échelle de ton amour, la mesure de ta grâce à toi, Seigneur. Et ce matin, je veux te prier pour nous, premièrement, Seigneur. Je veux te prier pour chaque personne dans cette salle. Certains d'entre nous n'ont pas goûté le pardon de Dieu, ne sont pas entrés dans ce shalom, dans cette paix avec toi, Seigneur, n'ont pas connu l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de cette paix entre Dieu et eux. Je te demande, Père, d'exercer un ministère par ton Esprit Saint ce matin, de venir les attirer à cette grâce, les inviter à entrer dans cette paix, Seigneur. Et ça, c'est toi qui le fais. J'ai beau prêcher, j'ai beau parler, on a beau répéter, Seigneur, ça se passe entre toi et l'esprit de chacun ici ce matin. Maintenant, pour ceux d'entre nous, Seigneur, qui sommes entrés dans ce shalom, dans cette paix, Seigneur, viens parler à nos cœurs. Certains d'entre nous, on est prisonniers dans un labyrinthe d'amertume, de colère, de mépris. On ne sait pas comment sortir de là, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. On entend ta parole, mais c'est seulement par la puissance de ton esprit que cette parole va être vécue dans nos cœurs. Et on a besoin que tu viennes à notre secours. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié des frères et sœurs qui sont pris dans l'amertume, dans la colère. Aie pitié, Seigneur. On a besoin de ta grâce, non seulement au jour de notre conversion, on a besoin de ta grâce, Seigneur, à chaque jour pour marcher selon ta parole. Et Seigneur, donne-nous le courage, l'humilité, la bonté, la générosité. Si ce matin, tu as rappelé à notre esprit un frère, une sœur, un voisin, un ami, un collègue qui a quelque chose contre nous, Seigneur, donne-nous le courage de nous assurer qu'on est des faiseurs de paix, qu'on apporte la miséricorde, Seigneur, qu'on rétablit la paix, la réconciliation. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Seigneur, qu'on te bénit, Seigneur Jésus, d'être venu vers nous. Tu es notre paix, Seigneur. Amen.